Bonjour et bienvenue à tous sur RCF. En Berry, nous sommes en direct de la cité de l'or de Saint-Amand-Montrond à l'occasion du troisième colloque Vox Aurea Via Sacra, consacré cette année à la musique sacrée juive. Nous allons passer une heure et demie ensemble, une première demi-heure qui commence maintenant d'ailleurs, consacrée à la présentation de ce colloque et des concerts avec nos invités. Et puis à partir de 17h, vous pourrez profiter en direct du concert du Chœur Juif de France. Dans cette émission spéciale, justement, nous sommes en direct avec vous, Thierry Vincent, vous êtes le maire de Saint-Amand-Montrond. Bonjour.
Bonjour.
Et également l'instigateur, l'organisateur de ce colloque Vox Aurea Via Sacra. Nous sommes également avec Hervé Rotten. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ethnomusicologue, docteur en musicologie de l'université Paris 4, la Sorbonne, et vous êtes également directeur de l'Institut Européen des Musiques Juives. Et puis nous sommes également avec vous, Marc-Alain Wachnin. Bonjour.
Bonjour.
Marc-Alain Wachnin, vous êtes docteur en philosophie, professeur associé de l'université de Bar-Ilan de Tel Aviv, et vous êtes également le producteur de l'émission de radio talmudique tous les dimanches matins sur France Culture, un confrère donc, en collaboration avec Françoise-Anne Ménager, et vous avez présenté en début d'après-midi le chant mystique dans la tradition hassidique. Voilà, donc pour resituer nos trois invités, on entend derrière le chœur juif de France se préparer, se régler avant le concert que vous pourrez retrouver à partir de 17h, avant de parler du chant dans la liturgie et dans la tradition juive, avant de parler de ces concerts, nous allons nous tourner vers vous, nous on se tourne vers vous, Thierry Vincent, pour savoir pourquoi ce colloque. C'est la troisième édition de ce colloque Vox Aurea Via Sacra. L'an passé, Vox Aurea nous avait emmené à travers voix d'or, voix sacrée, avec notamment la magnifique voix de Sœur Marie Kérouze, mais également celle des chants du Toronnais. On reste dans le chant sacré, bien entendu, lors de cette troisième édition, avec ce thème de la musique sacrée juive. Pourquoi ce thème, Thierry Vincent ?
Eh bien, il y a 70 ans, il y a eu dans le Cher les événements, la tragédie des Puits de Guéry. Au départ, ce sont des personnes, des juifs qui ont été arrêtés à Saint-Amand, Château-Meillan, et qui étaient réfugiés depuis 5 ans à Saint-Amand. Et donc, en plus, cette année, nous avons eu une remise de médaille des Justes parmi les nations de manière assez exceptionnelle par l'ambassadeur lui-même, l'ambassadeur d'Israël en France. Et donc, on voulait qu'après illustrer un peu ce triptyque, première pierre qui était la tragédie, deuxième pierre qui était le souvenir et l'honneur et l'espérance avec cette remise de médaille des Justes. Je voulais alors je sais pas si le mot est juste, qu'on élève tout ça et qu'on passe à cette troisième dimension qui est par l'élévation et donc par ce chant sacré juif et donc pour honorer la mémoire de toutes ces personnes disparues. Voilà, c'était ça l'objectif. Voilà, et puis c'était la suite logique avec l'année dernière où Hervé Rotten nous avait présenté dans un triptyque là aussi parce que c'était le chant sacré dans les trois religions du livre révélé, donc que ce soit du côté chrétien, musulman et juif, et Hervé donc nous avait à la fois enchanté et séduit et en plus nous étions dit ben voilà, l'année prochaine 2014 c'est Hervé Rotten qui va nous aider, et on a établi un partenariat avec l'Institut Européen des Musiques Juives pour faire ça.
Alors justement, Hervé Rotten, on se tourne vers vous à présent. Le chant dans la tradition et notamment liturgique juive, il est absolument omniprésent.
Absolument, il est omniprésent depuis la naissance de tout juif jusqu'à sa mort. C'est ce qu'on a vu tout au long de ce colloque qui s'est déroulé donc en une matinée, une après-midi. D'ordinaire, un colloque dure plus longtemps, mais là, nous étions un petit peu coincés sur cette journée de dimanche. Mais je pense que c'était une journée extrêmement dense et intéressante, avec des multitudes de points de vue qui nous ont permis de cerner cette réalité complexe du judaïsme. En général, le judaïsme est complexe, la musique l'est encore plus en particulier. Donc effectivement, vous avez raison, le chant est un élément totalement identitaire de l'âme, de l'essence juive, je ne sais pas comment dire autrement. C'est par le chant, et c'est comme ça que j'ai commencé ma communication ce matin. Dans le récit même de la Genèse, au commencement était le Verbe, au commencement était la parole. Avant même que le monde existe, en fait, il y avait la parole, et donc le chant était déjà sous-jacent et inhérent.
D'accord. Et alors, différents types de chants est-ce qu'on retrouve, et notamment dans la liturgie juive ? quels différents types de chants?
Alors le chant est lié, en fin de compte, à l'histoire du peuple juif. Je veux dire, il le suit profondément. L'histoire du peuple juif, c'est une histoire mouvementée, une histoire longue, hein, c'est quand même presque, pas tout à fait 4000 ans, 3700 ans. Donc au fur et à mesure de ce long voyage de 3700 ans, ce chant a évolué. Bien entendu, nul ne peut dire à quoi ressemblait le chant biblique aujourd'hui. On est dans des hypothèses, mais il y a quand même dans cette histoire juive presque 2000 ans de diaspora, de dispersion. Et au fur et à mesure de cette dispersion, bien évidemment, les communautés juives se sont intégrées dans leur environnement et y ont emprunté leur mode de vie, leurs coutumes, leur cuisine même, leur langue et bien sûr leur musique. Donc ce chant juif s'est diversifié au fur et à mesure de son histoire, à tel point qu'aujourd'hui, vous pouvez faire plus facilement chanter, par exemple, en Turquie, vous ferez chanter un chantre avec un muezzin turc, ils utilisent le même mode musicaux et ils chanteront ensemble sans problème. La seule différence, c'est les paroles. Il y en a un qui chantera en arabe, l'autre en hébreu, mais ils peuvent chanter exactement sur les mêmes modes, plus facilement que ce chantre turc avec un chantre qui viendrait d'Europe de l'Est. Ils partagent la langue, certes l'hébreu, mais pas du tout la même musique.
Et alors, à partir de quand dans l'histoire juive, on a les premières traces de l'apparition de chants et notamment de chantres dans la religion?
Alors la notion de chantre de Razan, elle est déjà dans les textes. On sait que, c'est ce qu'on a vu cet après-midi avec notamment monsieur Arnold, Jack Arnold et monsieur Hector Sabot, que le chantre était déjà en fait un gardien, un serviteur du temple dont le rôle a évolué et il s'est spécialisé dans l'art cantorial, dans l'art vocal pour devenir le porte-parole de sa communauté. Après, si on veut parler de traces musicales, c'est beaucoup plus tardif. Pendant très longtemps, la musique a été véhiculée uniquement par la tradition orale. On chantait de père en fils. Et il faudra attendre véritablement le, on va dire, milieu 18e pour vraiment commencer à voir noter la musique, en Occident tout au moins. Hein. C'est encore pas le cas en Orient, enfin je veux dire dans beaucoup d'autres pays. Aujourd'hui ça se répand évidemment, mais pendant des siècles c'était uniquement par la tradition orale.
Alors Hervé Rotten, ce qui est intéressant, c'est vous parlez du Razan, c'est le personnage central du chant et du chant sacré juif. Ce Razan, quel est son rôle exact et quel était au début, lors de son apparition, son rôle exact auprès de la communauté juive?
Alors au début, comme l'a dit monsieur Arnold, et je reprends ses paroles, il était un simple, entre guillemets, surveillant du culte synagogal. Il veillait à ce que la répartition des prières se fasse équitablement, à ce que les gens soient habillés dans un costume correct. Voilà, c'était une sorte de, vous m'excuserez le terme, de pion un petit peu, hein, de surveillant d'école, de classe, dans la synagogue. Et peu à peu, durant le premier millénaire, la liturgie s'est complexifiée en quelque sorte, c'est-à-dire que la liturgie juive a évolué. Il y a eu l'introduction de nouvelles poésies religieuses. Et donc, devant le renouvellement de cette liturgie, il a fallu professionnaliser en quelque sorte le rôle du chantre. Donc à ce moment-là, ça s'est fait progressivement, surtout le premier millénaire, la fonction de chantre a évolué et on a eu un véritable professionnel de la musique, chanteur, parfois également compositeur de poésie religieuse, qui est devenu l'âme de sa communauté en assumant et en portant sa tradition musicale.
Alors justement, on parle à ce moment-là de poésie liturgique. Est-ce que, en quoi la dimension artistique qu'on retrouve chez ce chantre qui est le Razan va-t-elle servir la transmission de la religion juive vis-à-vis de ses fidèles?
Par la beauté, tout simplement. Lorsque vous êtes en face du beau, comment vous voulez ne pas être saisi? Je crois que le Razan, il est là pour faire du beau, il est là pour faire du sens. La prière, ça ne doit pas être des mots vides de sens.
Marc-Alain Wachnin, une réaction par rapport à ça?
Ben justement, les mots ne doivent tellement pas être vides de sens que j'ai essayé personnellement de montrer que ce qu'on appelle la musique dans la mystique juive, c'est le fait de découvrir dans chaque mot au moins deux significations et que cette ouverture du sens au sens pluriel, c'est ça qu'on appelle la musique. C'est-à-dire que même quand on ne chante pas, si on est capable pour un seul mot d'en découvrir deux significations, on est déjà dans le chant. Et le chant, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est la polyphonie, c'est le contrepoint, c'est-à-dire la capacité, ce qui est très très difficile, on en a fait l'expérience même pendant ce colloque, d'entendre deux voix à la fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à la fin, Jacques Arnold a essayé de nous montrer, de nous faire entendre une musique, et il parlait en même temps pour nous donner la traduction du chant. Et je pense que tout le monde a fait la même expérience que moi, qu'il était extrêmement difficile d'écouter à la fois le chant et d'écouter à la fois la traduction. Et que de notre cerveau est fait de cette manière-là, qu'on ne peut entendre en généralement qu'une seule chose à la fois, au niveau conscient. Mais au niveau inconscient, c'est-à-dire au niveau des profondeurs de l'esprit, il y a cette capacité à dédoubler notre attention. Et je crois que ce que le chant nous apporte, c'est entrer au plus profond de nous-mêmes, là où on peut entendre plusieurs voix à la fois. Et c'est en ça que c'est mystique, c'est-à-dire mystique parce que ça ouvre à la transcendance et à la profondeur.
C'est quelque chose qu'il faut forcément comprendre. Quelqu'un, par exemple, qui ne connaît pas la religion juive, etc., il peut être touché au fond de son cœur, pas forcément comprendre le sens des paroles, mais y être sensible.
Bah, c'est ce que Hervé Rotten vient d'expliquer, c'est-à-dire que la dimension du beau, c'est la dimension première. Vous avez écouté ces chants, même quand Monsieur Arnold a dit « on a une caricature », moi j'ai trouvé ça extrêmement merveilleux, parce que en fait, il y a des vibrations, c'est la musique, ça touche au plus profond. Vous écoutez Mozart et vous savez pas ce que c'est que la musique, mais vous êtes touché. Donc je pense que la musique est au-delà, quand on n'est plus capable de mots, c'est Yankelevitch qui dit cela, la philosophie doit à un certain moment, la philosophie s'arrête quand on a plus les mots pour dire le monde. Et la musique prend le relais pour nous amener vers des mondes extraordinairement lointains, profonds et riches.
Et elle prendra justement le relais à partir de 17h avec le Chœur Juif de France et ses chants liturgiques des Juifs ashkénazes. Et puis à 20h30, le concert de Philippe et Michael Darmon, là, des chants liturgiques des Juifs séfarades. Quelle différence entre les chants liturgiques séfarades et ashkénazes, messieurs ? Hervé Rotten.
C'est une vaste question. C'est une question dont, comme j'en ai parlé, de la diaspora a fait que le peuple juif s'est dispersé sur une grande partie de la terre. Et en fait, une partie du peuple juif, vers la fin du premier millénaire, était le long du Rhin, en fait, hein, vers la Rhénanie, et progressivement a migré vers l'est. Et c'est cette partie-là qui parlait le yiddish. Le Yiddeutsch, en fait, c'est le juif allemand, c'est une judéo-langue, et d'autres, on a vu d'autres types encore d'allemand. Il en est émergé une culture originale qui est la culture ashkénaze, avec non seulement une langue, mais un mode de vie, des coutumes locales, une façon de chanter. Et d'un autre côté, les juifs dits séfarades, alors c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas que dans les séfarades, il y a des tas de branches, en fait. À l'origine, c'était des juifs qui vivaient, les séfarades vient du mot Espagne, enfin la péninsule ibérique en hébreu. Mais cela inclut aujourd'hui aussi les juifs d'Orient, orientaux et bien d'autres juifs. Et eux ont conservé ces modes de vie et ces mélodies orientales à l'origine. Hein, donc ça a donné en fait deux styles musicaux très différents en fait.
Ces deux styles aujourd'hui, est-ce qu'ils se réunissent, est-ce qu'ils se retrouvent, notamment depuis qu'il y a l'État d'Israël, on peut imaginer qu'ils sont parfois ou plus souvent réunis ensemble.
Alors, ils se réunissent et bien sûr, et parfois ils se disputent, mais ça c'est aussi typiquement juif. Alors vous voyez, dans le cadre de ce colloque à Saint-Amand-Montrond, ils sont réunis tout le temps du colloque et lors de ces deux concerts qui nous sont proposés. Évidemment, en Israël, c'est encore pire parce qu'il y a des juifs tellement d'horizons différents que effectivement, on entend toutes sortes de musiques et ils se créent. Je me demande quelque part un nouveau rite presque israélien qui est le mélange de tout ça en fait. Hein. Cet après-midi, Monsieur le rabbin Waknin a parlé de la métamorphose d'une mélodie. Et en fait, avec la musique juive, ou plutôt les musiques juives, on est sans arrêt dans la métamorphose des musiques juives. Hein. C'est pas quelque chose de figé du tout.
C'est quelque chose qui continue à évoluer, Marc-Alain Waknin.
Oui, je pense que c'est ça la richesse de la musique. Mais je pense pas que ce soit simplement la musique juive. Mais en tout cas, la musique... elle est à la fois traditionnelle et tout à coup le peuple s'en empare, ça devient le traditionnel devient populaire et ensuite le populaire redevient traditionnel et puis on est dans un constant mouvement entre musique traditionnelle, musique populaire, musique savante et ce qui fait que justement ce qu'on appelle la musique, c'est qu'il y a une tradition mais une tradition qui se renouvelle. C'est comme le sens. Le sens est une tradition si c'était quelque chose de figé, de congelé qui se répète de génération en génération. C'est plus une tradition, c'est un paquet de clous. La musique, elle est vivante, et c'est un organisme vivant qui passe justement avec des influences multiples, les influences orientales, les influences occidentales. Et puis la musique juive, elle a pris du lieu où elle était. Par exemple, les juifs d'Europe de l'Est ont pris de la musique roumaine pour en faire du klezmer. Puis le klezmer a transformé Broadway. Puis Broadway a donné la musique pop. Et la musique pop se réintègre dans la musique juive. Donc vraiment, on est dans une sorte de mouvement permanent qui fait qu'on peut parler d'une richesse, non seulement d'une richesse, mais d'une richesse vivante de la musique en général et de la musique juive en particulier.
Alors la musique juive, on dit qu'elle est toujours collée au culte. Est-ce qu'il y a justement de nos jours des musiques juives qui ne sont pas directement liées au culte, une pop ou des choses comme ça?
Oui, tout à fait. Alors la musique juive n'est pas uniquement collée au culte, je me permets
C'était
de rectifier.
C'était peut-être un peu réducteur, mais...
Mais c'est effectivement son lieu d'expression privilégié, puisque comme on l'a vu, lorsqu'il y a culte, il y a prière, et il peut pas y avoir de prière sans chant, c'est totalement inhérent. Mais à côté de ça, il y a bien sûr d'autres types de musique, il y a toutes les musiques, on parlait de musique populaire, il y a toutes les musiques qui se font tout au long de la vie, depuis la naissance, la circoncision, le mariage, il y a tout ce qu'on appelle un petit peu la paraliturgie en quelque sorte, c'est lié au cycle de la vie. Mais à côté de ça, aujourd'hui, on a une musique juive qui est en train de renaître. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que elle est en partie faite par des non-juifs. Si vous parlez tout à l'heure de musique klezmer, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des groupes de musique klezmer ne sont absolument pas constitués de juifs. C'est une musique qui, en fait, a une portée universelle, notamment parce que le klezmer est une musique à l'origine essentiellement instrumentale. Et donc, on n'a pas la barrière de la langue. Donc, sans la barrière de la langue et avec, en plus, cette familiarisation des musiques ciganes, des musiques d'Europe de l'Est qu'on a connues en France, notamment dans les années 80-90, avec des films sur le temps des Gitans ou d'autres films comme ça qui ont popularisé cette musique, il y a eu un retour de la musique d'Europe de l'Est et donc de la musique klezmer. Et tout ça pour vous dire que, en fait, aujourd'hui, c'est très difficile de définir ce que c'est qu'une musique juive, parce que il ne suffit pas d'être juif pour faire de la musique juive. La preuve en est avec tous ces groupes qui se créent. A contrario, c'est pas parce qu'un violoniste juif joue un concerto pour violon de Beethoven que ça devient de la musique juive, en aucune façon. Je pense qu'en fin de compte, c'est la fonction qui fait l'organe, c'est la façon, en fin de compte, dont les gens appréhendent cette musique qui fait qu'en fait, elle devient juive. C'est donc le contexte d'exécution qui fait que des musiciens klezmer absolument non juifs vont présenter ce concert et ça va être accepté par le public comme une musique juive.
Voilà, on va se revenir, donc quitter cet aspect populaire de la musique juive et revenir au chant synagogal notamment, et on va expliquer à nos auditeurs les deux types de chants synagogaux que l'on peut retrouver, merci messieurs, et la différence entre la psalmodie et la cantatillation.
Alors la cantillation, exactement.
Cantillation,
oui,
pardon.
Oui, c'est un mot toujours difficile. On ne sait jamais d'ailleurs s'il y a deux L, un seul L. En fait, les dictionnaires ne sont jamais d'accord entre eux. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose dont on a l'habitude dans le judaïsme. Cette discussion, ce pile-poule, comme on dit. Il n'y a pas que deux catégories, en fait. Si vous voulez, la cantillation, c'est tout simplement est née de la lecture publique à voix haute de la Torah. Donc on fait remonter ce fait historique au 5e siècle de l'ère avant Jésus-Christ, où après le retour de l'exil babylonien, Ezra, le prophète Ezra, pour en quelque sorte rejudaïser le peuple, pour lui redonner une identité, une histoire commune, une culture et une foi commune, a en fait institué la lecture à haute voix de la Torah les lundis, jeudis et samedis, dans le cadre synagogal. Et cette lecture à haute voix a entraîné évidemment une façon de cantiler, de une sorte de parler chanté, ce que Schoenberg appelle le Sprechgesang en quelque sorte, qui est la cantillation biblique en fait. Donc ça c'est une première chose. La psalmodie, c'est encore autre chose, on n'en a pas vraiment parlé dans le cadre de ce colloque, et ça recoupe encore une autre, enfin c'est parfois très proche entre la psalmodie et la cantillation, d'ailleurs les psaumes sont aussi affectés de signes qu'on appelle d'accent biblique, qu'on trouve également dans la cantillation biblique. Mais c'est pas tout à fait la même réalité. Et franchement, j'ai pas le temps de rentrer dans le distinguo aujourd'hui. Après là-dessus, cantillation psalmodie est née, comme je l'ai dit, la poésie religieuse. Et avec la poésie religieuse, comme on a créé des nouveaux textes, on a forcément créé de nouvelles musiques. Le texte n'était plus soumis à la déclamation, simplement à l'intonation de la voix. Le but aussi n'était pas simplement de faire entendre le texte. Le but était aussi que les fidèles retiennent le texte. Et pour ça, les mémoires, la musique est un moyen mnémotechnique infaillible, un aide-mémoire formidable. Donc voilà, c'est, en fait, la musique juive est constituée de strates. Hein, c'est un peu, et moi j'aime ça, comparer ça à des terres fossiles, en fait. Plus vous allez profondément, plus vous retrouvez des éléments anciens. Et c'est en ça que les musiques juives sont passionnantes à l'étude. Passionnantes parce que vous retrouvez des traces, non seulement comme les archéologues de différentes civilisations, vous descendez ou vous remontez dans le temps, mais aussi dans l'espace. C'est-à-dire que selon les différents lieux, vous allez retrouver dans le chant yiddish de l'allemand ancien, dans le chant judéo-espagnol du castillan ancien. Enfin, vous retrouvez énormément de choses. Donc ça devrait être un objet d'étude universel.
Mais c'est ce que j'allais dire, ces strates, ce sont des clés de compréhension de la religion juive.
Certainement. C'est la religion juive, c'est complexe encore une fois. Mais à travers le chant, effectivement, c'est une approche. Moi, je vous avoue, je ne suis pas religieux au sens pratique du terme, mais mon judaïsme, je l'ai retrouvé à travers la musique. Oui.
Alors, on entend justement, on pense qu'on l'entend très bien d'ailleurs à l'antenne, le Chœur Juif de France qui se prépare. On va présenter pour nos auditeurs ce Chœur Juif de France et ce qu'on va entendre à partir de 17h et jusqu'à 18h. Il y a des côtés, depuis une demi-heure, là on les entend répéter, il y a des côtés opéra, opérette dans ce qu'on entend derrière nous, messieurs. Hervé Rotten.
Oui, tout à fait. Parce que le propre du répertoire du Chœur Juif de France, c'est un chœur qui chante la tradition ashkénaze. Et notamment la tradition ashkénaze d'Europe de l'Ouest. Or, en Europe de l'Ouest, comme vous le savez, il y a eu l'émancipation des Juifs de France en 1790-91, hein, ça a deux dates. Et après, avec Napoléon Ier, la création des consistoires en 1806 et 1808, deux lois, deux décrets qui créent les consistoires israélites et qui font que le Juif, en fait, abandonne un peu son... C'est plus une nation ou un peuple, mais il devient un Français de confession israélite. Hein. Et à ce moment-là, l'idée de Napoléon, c'est que juif à l'intérieur chez soi, mais à l'extérieur français. Et pour ça, il va aussi demander à ses consistoires de créer, de réformer la liturgie, de manière à la rapprocher en quelque sorte de la des liturgies chrétiennes, hein, qu'elles soient les liturgies catholiques ou protestantes, avec la création notamment de chœurs d'hommes comme celui qu'on entend. Parce qu'avant, la musique juive, elle est essentiellement à une voix, elle est monodique, puisque ce qui prime, c'est le sens. Et là, on crée des chœurs d'hommes avec des voix d'enfants pour les voix aiguës. On permet même ce qui n'était pas admis avant l'utilisation d'instruments et même l'utilisation de l'orgue, notamment à partir de 1856. Et donc, le culte israélite commence à ressembler de plus en plus au culte environnant. Et à ce moment-là, évidemment, comme tout ce travail demande une refonte, une composition, les compositeurs juifs de l'époque mettent la main à la pâte. Et les compositeurs juifs, c'est qui? C'est les compositeurs d'opéra, hein, c'est Fromental à Lévy, c'est Meyerbeer, c'est tous les compositeurs du 19e. Et c'est ce qui explique ces airs opératiques dont vous parlez.
Et donc cette voix qu'on entend et qui se distingue de toutes les autres, juste là, c'est celle du Chazan.
Oui.
Voilà.
Tout à fait.
Donc que l'on retrouve à partir de 17h, donc ce chœur juif de France, un chœur que vous connaissez tous les deux, Hervé Rotten et vous?
Non, j'avoue que c'est la première fois que je vais l'entendre. C'est une découverte, une joie et un plaisir, et c'est un des intérêts de ce colloque, de cette rencontre, parce que je pense que d'abord, moi personnellement, ça m'a permis de rencontrer des collègues, de rencontrer un thème que je n'aborde pas nécessairement dans mon travail de recherche d'habitude, de rencontrer Monsieur le Maire et de rencontrer une formation telle que celle-là qui va nous faire entendre des choses que je ne connais pas personnellement, et je trouve ça très enthousiasmant, et voilà, j'ai hâte.
Et alors, ce qui est surprenant, Marc-Alain Wachnin, je reste avec vous, c'est que ce chœur, il a été créé en 2006, c'est un chœur qui est assez jeune. Est-ce qu'il existe d'autres chœurs comme ça, comme celui-là en France?
Alors,
De cette envergure, non, c'est un des chœurs, j'allais dire, les plus importants. Il existe bien sûr d'autres chœurs dans des grandes villes, enfin dans des villes où il y a des communautés juives importantes, comme à Strasbourg, il y a des chœurs. Mais je voudrais insister quand même sur un point très important, et c'est en ça que non seulement cette soirée va se distinguer des autres, mais ce colloque en lui-même, c'est qu'un colloque consacré intégralement aux voix et à la musique sacrée juive en France, on n'en avait pas eu depuis plus de 50 ans. C'est le dernier colloque et congrès de musique juive remonte dans les années 60, si je me trompe pas, c'est dans les années 65, organisé par le directeur de musique du consistoire de l'époque, monsieur Léon Algazi. Et donc ça fait 50 ans qu'on attend cette possibilité enfin de pouvoir non seulement parler mais faire entendre la musique juive. Donc à ce titre-là, je remercie vraiment le maire de Saint-Amand-Montrond, Thierry Vincent, pour ce travail remarquable.
Mais pour nous, c'était une grande surprise d'apprendre ça. Et c'est ça qui est important, à inviter et puis accueillir à Saint-Amand des personnalités à la fois éminentes et puis sympathiques et simples. Et c'est ça qui est important, parce que c'est ce qui permet de. Enfin, moi aujourd'hui, j'ai compris tout ce qui était dit. Ça a été un colloque, certes. Quand même niveau scientifique, mais en même temps où chacun des intervenants a tout expliqué de manière la plus simple possible. Et je crois que c'est ça aussi la culture et puis la transmission. Et c'est à mon avis aussi une des clés de ces 3700 années de transmission d'un même message, et puis avec pour autant une liberté d'interprétation, de débat, de dialogue. Moi j'étais enthousiasmé, et je crois que c'est aussi une invitation à poursuivre.
Effectivement, alors vous par exemple, Marc Alain Wachnin, qu'avez-vous appris, qu'avez-vous retiré de ce colloque ?
Ah ben, énormément de choses. D'abord, comme on vient de le dire ou de l'esquisser, le fait même qu'il y ait des chercheurs qui s'intéressent à la musique juive, comme M. Roten ou M. Sabot ou M. Arnold, c'est quelque chose qui n'est pas évident. On connaît la littérature juive, on connaît la philosophie juive, on connaît l'histoire juive, mais on ne connaît pas le domaine de la musique juive. Et je pense que c'est un monde, et comme a dit Monsieur Sabot, c'est un petit peu comme un iceberg. Et maintenant, on est en train de découvrir la partie émergée, mais il y a toute la partie immergée qui reste à découvrir. Et ça, et ce que j'ai entendu, et c'est pour ça que je suis vraiment très très heureux et très intéressé par ce que j'ai entendu, c'est que la musique est peut-être une dimension transversale de la culture qui permet d'aborder à la fois la géographie, à la fois l'histoire, à la fois la philosophie, à la fois la musicologie, à la fois la psychologie, à la fois... Et donc, il y a vraiment dans la musique un élément peut-être rassembleur et qui fait que c'est un... Et comme a dit Monsieur le maire, c'est que non seulement on a entendu des choses, mais on les a comprises. Et donc, il me semble que c'est un des avenirs de la pensée du 21e siècle, autour de la musique ou à partir de la musique, de découvrir d'autres sciences. Donc c'est une véritable porte, et je crois qu'en cela, c'était pour moi une immense découverte. Et en plus, comme je l'ai dit, de venir à Saint-Amand-Montrond, un lieu de juste, je sais pas si je l'ai déjà dit tout à dans cette émission, je l'ai dit, le maire l'a évoqué, mais pour moi c'était ma première réaction, c'est de dire je viens parce que il y a un lieu de juste, et que de venir, de mettre les pieds, c'est de rendre hommage aussi à ces justes, et on a une responsabilité par rapport à ces justes. Et comme le maire nous l'a dit dans le colloque off, puisqu'il y a eu deux colloques, c'est que les justes vont disparaître dans quelques années, puisqu'ils se font âgés, et c'est important qu'il y ait aussi la relève qui se fasse, soit par des villes qui prennent en charge, mais ce colloque me semble-t-il faire partie de ce qui va prendre en charge la transmission de la mémoire de ces justes qui ne seront plus capables de parler, mais qui seront, je dirais, vivants par le colloque qui se apparemment est d'une grande vitalité et chaque année va parler de tout cela.
Il faut se souvenir, en effet, vous êtes d'accord, Hervé Rotten, avec cette idée que la musique et la musique a cette capacité à rassembler.
Oui, tout à fait. On a dit que la musique était un aide-mémoire, mais ça va au-delà de ça. La musique, c'est un élément fédérateur. On l'a vu à travers le rôle du Khazan, à travers quand vous avez une communauté de personnes qui sont unies dans une même musique. On peut tout faire, hein. Mais ça on le voit, c'est pas, on le voit même dans d'autres domaines. Quand vous pensez aux chants martiaux, quand vous faites chanter les soldats, c'est pas pour le plaisir de chanter, c'est pour les entraîner, c'est parce qu'il y a un côté derrière qui les pousse.
Le son du tambour.
Voilà, le son du tambour. Donc, c'est extrêmement fédérateur. Moi, je voudrais juste ajouter une chose qui me touche. Alors déjà, effectivement, rebondir sur le travail que fait Monsieur Vincent pour les justes, qui me semble tout à fait remarquable et qui aussi a motivé dès l'année précédente ma venue ici. Et ça, je dois dire que je lui rends profondément hommage, puisque moi aussi, je veux dire, je suis un fils. Ma mère a perdu toute sa famille. Elle a été aussi cachée, et donc c'est aussi à la faire connaître les gens qui l'ont cachée comme des justes. Donc on est tous quelque part des rescapés ou des enfants de rescapés de cette période-là. Et je pense que Monsieur Wapnin ne me contredira pas. Ça nous marque à vie, quoi. Je veux dire, tout ce qu'on fait, on le fait avec ça qui est gravé en nous. Je veux dire, mon frère est dans l'audiovisuel. Moi, je suis dans l'audio. Mon frère est dans l'audiovisuel. Il a travaillé lui sur quoi? Son premier film, c'était sur les justes. C'était pas pour rien. Bon. Et enfin, dire une chose, c'est que quand même, cet iceberg aussi de ces musiques juives, aujourd'hui, je vais prêcher un peu là. Le mot est amusant entre guillemets pour ma paroisse, pour l'Institut européen des musiques juives que je dirige, puisque justement le rôle de cet institut, on a un petit slogan, c'est mettre nos traditions musicales à la portée de tous. Et c'est un peu notre mission, c'est véritablement une mission, c'est-à-dire que nous recueillons, nous préservons certes, mais nous numérisons et nous mettons en ligne. Donc tout le monde peut nous retrouver sur le site internet de l'Institut européen des musiques juives, dont je donne l'adresse www.iemj.org. Et là, vous pouvez accéder à des dizaines de milliers d'enregistrements sonores, mais vraiment une quantité énorme de documents qui sont des documents liés aux musiques juives. Donc c'est un travail, j'allais dire, qui n'est pas un travail communautaire. Vraiment, je pense que c'est un travail qui va bien au-delà de ça. C'est un travail qui a une dimension universelle. C'est un travail patrimonial pour moi.
Donc il ne faut pas hésiter justement à se rendre sur ce site internet. Thierry Vincent.
Ah, moi je voulais juste rajouter que dans le colloque, il a bien été dit aussi l'impact de la musique sacrée juive sur le grégorien. Ah, c'est ce qui avait déjà été abordé l'année dernière avec Damien Poibleau, le directeur des chantres du Toronnet, et puis Hervé Rotten, et on l'a retrouvé aujourd'hui dans les propos d'un autre intervenant, pour dire qu'il y a cette influence. Et donc ici Saint-Amand avec l'abbé de Noirlac, le chant grégorien, donc même si on en entend trop peu encore, donc il y a cette influence. Et puis on retrouve, enfin, je pour parler des Berruyers aussi, cathédrale de Bourges, toute cette influence. Et donc le christianisme ne part pas de rien. Il s'est appuyé sur le premier livre.
Hein. Effectivement.
L'Ancien Testament n'est autre que ce message. Donc nous sommes les petits frères et les Juifs sont nos grands frères. Et
alors je pense que c'est important parce que là nous sommes sur une radio qui s'appelle comment en fait ?
Radio Chrétienne Francophone,
voilà.
En Berry.
Radio Chrétienne Francophone en Berry. Bon, pour moi c'est important, Hervé Rotten vient de le rappeler par rapport à sa propre histoire. Moi je l'ai dit et je l'ai redit, bon, mon père est grand rabbin et je suis rabbin. Mes frères sont, mon frère est rabbin, mes sœurs sont épousées des rabbins et on est une famille qui... Tous les matins, sans exception, on fait une prière de remerciement à un chanoine qui s'appelle le chanoine Vancourt, qui a caché la famille de ma mère pendant toute la guerre. Et c'est un chanoine. Et pour nous, c'est très important. C'est-à-dire que on parle des justes, mais on parle aussi de, vous avez parlé de la cathédrale. Je pense que cette question ici et Saint-Amand est une sorte de symbole particulier. La relation entre juifs et chrétiens n'a pas toujours été extraordinaire. Il y a eu les croisades, il y a eu des choses qui sont pas belles à dire, mais il y a eu des choses qui sont tellement extraordinairement importantes de beauté, d'humanité, de richesse. Moi, je dis que si ce colloque, c'est aussi la transmission de la mémoire du rapprochement de cette humanité entre juifs et chrétiens, et dans le respect de la différence, parce que c'est pas le syncrétisme. Ma mère m'a dit toujours, mon grand-père aussi, le chanoine insistait que tous les Shabbats, il fasse le Shabbat, que toutes les fêtes de Pâques, il fasse la Pâque. Donc, c'était pas les sauver pour les christianiser, c'était les sauver parce que c'était l'humanité et la responsabilité simplement d'un homme, et il y a eu des hommes d'église en particulier qui ont eu cette humanité, qui ont rappelé à l'humanité qu'il y a de l'humain dans chaque homme au-delà des différences théologiques. Et je pense que rien que pour cela, c'est Saint-Amand en est comme une sorte de symbole qu'il faut souligner, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans ce colloque, au-delà de la question thématique de la musique juive.
Marc-Alain Wacknin, merci de ce témoignage. Thierry Vinson, vous vouliez rajouter quelque chose assez rapidement, parce que je pense
juste
que le concert va commencer.
Le chanoine Doucet à Saint-Amand, donc a émis pendant la guerre pour sauver beaucoup de juifs, quantité de certificats de baptême qui étaient vrais puisqu'ils étaient signés de sa main, mais qui n'attestaient pas une réalité. C'était pour les sauver. Voilà.
Merci à vous trois. Merci à vous, Hervé Rotten. Merci à vous, Thierry Vinson.
Et puis, ce sera peut-être l'occasion un jour, avec Rabbin Wacknin, on évoquait, puis Hervé Rotten, de faire un colloque sur, justement, avec Yad Vashem, sur les justes parmi les nations.
Et
parler c'est en préparation
de cette histoire, et notamment sur RCF en Berry, voilà. Immanquablement. Merci à vous trois.
Merci à vous.
Merci. Merci.